La baronne trépassée, troisième fichier. Le veneur noir et ses quatre fils avaient mis bas leurs masques, la châtelaine pareillement. Mais le baron les eut à peine dévisagés qu'il poussa un cri, posa la main sur son cœur et s'appuya au mur, défaillant et pâle. Il avait sous les yeux six faces de squelettes, six têtes de mort placées sur des épaules vivantes, en apparence du moins, six têtes qui grimaçaient et se contractaient affreusement, les unes sous une chevelure blonde, les autres sous des cheveux noirs ou gris, l'une enfin, celle de la trépassée, sur un cou de cygne, blanc, pur de forme, de contours et de mouvements, sous la plus soyeuse et la plus belle chevelure qui ait couronné un front de femme. Mais ce qu'il y avait surtout d'effrayant, c'était ses yeux ardents, qui brillait au travers de ce visage décharné et rongé à demi par les vers du cercueil. Ses yeux, qui se levèrent simultanément avec une expression de menaçant et railleur défi sur le baron, qui osait affronter ainsi un pareil spectacle. « Vous êtes pâle et vous frissonnez, baron !» dit la morte avec ses lèvres de squelette. Le baron frissonnait et était pâle, en effet. Mais le défi, de quelque bouche et de quelque lieu qu'il vienne, est un stimulant tout-puissant. Et le baron releva soudain la tête et répondit « Je pâlis et je frissonne si peu, madame, que je veux achever de souper avec vous. » Et il s'avança vers la table avec une stoïque assurance et reprit la place qu'il occupait naguère. Chapitre 10. Les six squelettes se regardaient avec un étonnement mêlé d'admiration. Le courage du baron devenait presque de la folie. « Baron !» dit la trépassée en laissant passer un rire funeste au travers de ses lèvres décharnées. « Je vous fais amende honorable. Vous êtes un preux chevalier. »«
Vous êtes mille fois trop bonne, madame, » répondit Nosac.
« Et si le proverbe « conseil vaut éloge » et de quelque justesse, je me permettrai de vous faire une légère prière.
« Ah ! » fit la morte. « Voyons.
Prenez le bout de votre serviette, madame. »«
Bien, après. Vous avez un verre sur la joue. »
Un éclair de colère jaillit des yeux des cinq veneurs noirs. Mais le baron, qui s'exaltait dans la peur comme dans l'intrépidité, le baron, muet et glacé peu avant, et maintenant dominant en maître la situation, le baron s'écria avec un éclat de rire aussi railleur que le ton de la trépassée « Vous voulez jouer au terrible et à l'épouvantable avec moi, messieurs les damnés et les revenants. J'essaie, vous le voyez, de me mettre à votre niveau. »«
Boirez-vous ?» demanda le vieux veneur en ricanant. « Oserez-vous boire et manger ?»
Si vous me laissez de quoi, oui, vraiment, car tudieu, mes maîtres, tout trépassé que vous êtes tous.
Vous vous trompez, baron, dit le veneur noir. Mes fils et moi sommes bien vivants.
Alors, pourquoi ces faces décharnées?
Parce que mon père, Satan, a aimé ma mère après sa mort.
Le baron tressaillit légèrement, mais il se remit aussitôt.
« Ce doit être une curieuse histoire, » dit-il, sans rien perdre de son accent de persiflage.
« Et que je suis prêt à vous conter, mon maître. »
« Je suis tout disposé à l'entendre, mais d'abord, mon cher hôte, versez-moi du vin. Au train dont vous allez, vous et vos fils, il se pourrait bien faire que les flacons fussent vides avant peu. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. »
« Buvez, mon maître, et quand les flacons seront vides,
vous en aurez d'autres, n'est-ce pas ?»«
Sans doute. »
« Vidons-les alors, car je serai curieux de voir enfin vos serviteurs. Jusqu'à présent,
vous en êtes aux conjectures, voulez-vous dire ?»«
Précisément. J'emprunte mes domestiques à mon père. »«
Ah, très bien. Voyons l'histoire. »
Le veneur approcha son verre rempli jusqu'au bord de ses lèvres de squelette, et tandis que le baron lui faisait raison en s'inclinant devant la trépassée, il s'exprima ainsi.
« J'ai dû vous le dire, je suis né sous le règne de Charlemagne. Ma mère vivait à cette époque. Ma mère était une demoiselle de fort bonne noblesse et d'un esprit accompli. En ce siècle d'ignorance où elle vivait, alors qu'on tirait vanité de ne savoir point écrire, ma mère parlait et écrivait plusieurs langues, l'hébreu et le syriaque, entre autres. De plus, ma mère était incrédule à l'endroit de plusieurs dogmes de la loi chrétienne. Elle doutait entièrement de l'existence du diable, et par suite de celle de l'enfer. En vain son chapelain lui prêchait-il matin et soir de fort beaux discours sur le lieu de supplices et d'expiations éternelles où mon père préside. En vain encore sa mère, pieuse femme, lui disait-elle « Ma fille, tu seras damnée pour punition de ne point croire à l'enfer. » Ma mère souriait et haussait les épaules. Satan, mon père, écoutait ces paroles impies et riait à son tour. Mais ma mère était si belle qu'il se prenait à souhaiter parfois d'être un simple mortel pour l'épouser et l'aimer. Or, il se dit un jour qu'il lui était facile d'arriver à ce résultat en prenant une forme humaine. Il se logea dans le corps d'un chevalier, assez bien tourné et de belle taille, qui venait de se faire oxyre dans une bataille livrée aux Sarrasins, et il se présenta chez la demoiselle, après lui avoir envoyé toutefois son écuyer séduction, porteur de riches et rares présents. Mais la demoiselle était vertueuse, quoique incrédule, et mon père n'y put rien. Elle demeura vierge en dépit de tout. « Heureusement, pensa mon père, que la petite sera damnée et qu'elle mourra un jour ou l'autre. » Les prévisions de mon père se réalisèrent. Un jour, en allant assister à un tournoi que donnait le roi Charlemagne, ma mère, montée sur une haquenée blanche, passa auprès d'une vieille tour qui tombait en ruine et branlait au vent. Sur le faîte de cette tour, un poète allemand rêvait auprès d'un nid de cigogne. Voyant venir ma mère, le poète, qui était curieux, interrompit les dactyles latins qu'il était en train de composer et se pencha en avant. La pierre sur laquelle il reposait se détacha et il se trouva lancé dans le vide. Le hasard voulut qu'il alla tomber et se briser le crâne à 10 pas en avant de ma mère, qui mourut de peur presque sur le coup. Ma mère morte, son âme prit en droite ligne la route de l'enfer, qu'elle avait toujours niée, et elle trouva sur la porte même Satan, mon père, qui lui offrit sa main avec une exquise galanterie et la conduisit auprès de l'âtre éternel, devant lequel elle devait se rôtir à petit feu pendant la consommation des siècles. Ma mère, de son vivant, était une petite maîtresse usant des parfums et des eaux mystérieuses qu'inventaient et colportaient alors, par tout le globe, les Arabes vagabonds. Elle fit donc une affreuse grimace en approchant du foyer paternel, où il fait si chaud en toute saison. Elle se repentit amèrement de son incrédulité, mais hélas, c'était trop tard. Mon père en eut pitié, cependant, et lui dit « Gente demoiselle, si vous voulez m'aimer 8 jours consécutifs, je vous rendrai à Dieu, qui vous a donné à moi, et il vous placera dans son paradis, où la brise est fraîche et le feu moins ardent. » « Vous aimez ?» fit ma mère avec dédain. « Allons donc !» Et elle s'assit au coin du feu de mon père avec une stoïque résignation. Pendant 8 jours, elle eut le courage de brûler, mais le 9e, elle n'y tint plus. « Soit !» dit-elle. Mon père, que la brûlante atmosphère où il vit ordinairement rendit très frileux, s'enveloppa dans son manteau et monta sur la terre. Guidé par les rayons de la lune, il s'achemina lestement vers le cimetière où ma mère était enterrée, gratta la terre de son pied fourchu, mit à nu le cercueil, l'ouvrit et en retira le corps de ma mère dans lequel il remit son âme qu'il avait apportée dans un coin de son manteau. L'âme rajustée au corps, ma mère se leva et marcha, s'enveloppant les épaules et le visage dans les plis de son suaire blanc. « En route !» lui dit mon père. « Où allons-nous ? » « Chez vous, dans votre castel. » La morte s'achemina lentement vers la ville d'Aix-la-Chapelle, où son père, qui était un riche seigneur, avait un palais somptueux. Elle arriva, suivie par mon père qui grelottait, à la porte de ce palais. La porte s'ouvrit devant elle, elle entra, monta l'escalier, arriva à son appartement, désert depuis sa mort, et poussa les verrous quand mon père fut entré.
Alors celui-ci frotta son ongle crochu contre l'une de ses cornes et en tira une myriade d'étincelles qui allumèrent une torche fixée dans le mur par un crampon de fer. Puis, à la lueur de cette torche, il examina ma mère. Mais il l'eut à peine dévisagée qu'il poussa un cri d'horreur. Pendant les 8 jours que son corps avait passé au cercueil, les vers avaient eu le temps de lui ronger le visage. Mais mon père n'avait qu'une parole. Il avait promis, il tint sa promesse. Et je naquis, 9 mois après. Seulement, je ressemblais à ma mère, et c'est pour cela que je porte un masque, pour être moins hideux. Ma mère était sortie de sa tombe pour me mettre au monde. Mon grand-père me trouva un matin sur le lit de sa fille, et sans trop savoir d'où je provenais, il me fit baptiser à tout hasard. Le prêtre qui me donna l'eau mourut de frayeur. Néanmoins, j'étais chrétien. Malheureusement, mon père s'empara de moi peu après, et je n'ai gagné à mon baptême qu'une seule chose, d'être à l'épreuve des signes de croix. Pour tout le reste, je suis le fils du diable. » Le baron avait écouté avec beaucoup de calme cette étrange histoire. Quand le veneur noir eut fini, il s'écria « Vos contes sont aussi merveilleux que vos vins. À boire, mon hôte !»«
Buvez !» répondit le veneur.
« Et maintenant il est tard, mon jeune maître, vous devez avoir besoin de repos. Votre appartement est prêt. » Et ce disant, il frappa sur un timbre. La jeune fille qui avait si fort impressionné nos sacs parut aussitôt, vint à lui souriante et le prit par la main. « Venez » dit-elle. La vue de la jeune fille rendit au baron, que l'ivresse commençait à gagner, un peu de sa présence d'esprit. Elle le conduisit à travers les salles qu'il avait déjà parcourues, lui fit gravir le grand escalier et le mena à l'étage supérieur. Là, elle ouvrit une porte et l'introduisit dans une chambre à tenture noire pareille à celle du bas, mais aussi confortablement meublée que possible et telle qu'en rêvent les voyageurs dans un pays inculte et barbare où ils sont privés de tout luxe. « Dormez !» lui dit-elle en lui indiquant le lit. Et son sourire était doux, naïf, presque angélique. Et le baron secoua alors, en présence de cette rayonnante enfant, la torpeur de l'ivresse qui envahissait ses membres et étreignait sa raison. Et, posant ses lèvres sur ses mains diaphanes, fléchissant un genou devant elle et la regardant d'un air suppliant, il lui dit « Oh, dites-moi que je fais un rêve !» Un rêve affreux, et qu'il n'est pas possible que vous, si belle, si pure, si naïve, vous soyez de la même race que tous ces suppôts de l'enfer que je quitte. Dites-moi que tout cela est un cauchemar, que je dors tout debout, qu'il est impossible.
Chut, dit-elle en lui posant sur la bouche ses doigts effilés et roses.
Chut. Oh non, laissez-moi vous questionner, vous demander. Il est impossible que, si belle, vous soyez... »
La jeune fille parut hésiter, frémir, se troubler. Puis, soudain, faisant un effort suprême, elle approcha ses lèvres du front du baron et murmura « C'est peut-être la mort que j'appelle sur ma tête, mais je vous aime, je dirai tout. »«
Oh, parlez !» s'écria Monsieur de Nossac. « Je suis là pour vous défendre. »«
Eh bien, » fit-elle frissonnante, « vous avez été un lion jusqu'à présent. Soyez-le jusqu'au bout. Mettez votre épée sous votre chevet et veillez. Vous êtes le jouet d'une comédie terrible. »
Et comme si elle eût craint d'en avoir trop dit, elle s'enfuit et ferma la porte sur elle. Nossac voulut courir et la poursuivre, mais une force invincible, l'inertie de l'ivresse, le cloua au sol et la tête recommença à lui tourner. Il n'eut que le temps de placer son épée à son chevet et de se jeter sur son lit. Un sommeil de plomb, une léthargie sans égale, s'empara de lui aussitôt. Et aussitôt aussi, la porte fermée par la jeune fille s'ouvrit avec fracas, et une forme blanche entra dans la chambre et marcha vers le lit du pas lent et mesuré des fantômes.
Chapitre 11. Au bruit qui se fit, Monsieur de Nossac s'éveilla en sursaut, ouvrit les yeux et voulut se lever. Mais ce réveil fut bien plus moral que physique, car il ne put, quelques efforts qu'il fît, remuer aucun de ses membres, et vit arriver à lui, au milieu des ténèbres, cette forme impassible et muette, sans que sa langue pût jeter un cri, sans qu'il pût reculer lui-même jusqu'à la ruelle du lit. La forme blanche avança jusqu'à lui et posa quelque chose de froid sur son front. Ce quelque chose était une main. Puis elle s'assit au chevet et se pencha tout à fait sur le baron. Le baron était dans une situation terrible. Il voyait cet être étrange dont il ne pouvait trop se définir à lui-même le sexe et la race. Il le voyait incliné sur lui, il sentait sa respiration aussi glacée que sa main. Son front frissonnait à ce contact, ses cheveux se hérissaient, et il ne pouvait cependant ni crier, ni se débattre, ni demander grâce ou raison. Le fantôme, c'en était un sans doute, se coucha tout à fait côte à côte avec Monsieur de Nossac, puis appuya ses lèvres sur son cou nu, et Monsieur de Nossac sentit soudain une sorte de piqûre légère et peu douloureuse, mais qui acheva de l'épouvanter. Il avait affaire à un de ces monstres si connus en Hongrie et en Bohême qu'on nomme des vampires, et sur lesquels un moine, le père Don Calmé, venait précisément, il y avait 2 ou 3 ans à peine, d'écrire un fort beau livre où il prouvait, clair comme le jour, que rien n'est plus naturel que le vampirisme. L'angoisse du baron, pendant tout le temps que dura la succion fatale, est difficile à dépeindre. Frappé de paralysie dans tous ses membres et dans sa langue elle-même, il avait conservé le toucher, l'ouïe et la vue. Il voyait, il entendait le vampire qui respirait par saccades, il le sentait allongé sur lui, aspirant son sang avec une âpre avidité, et, chose étrange, malgré l'effroi et la douleur qu'il en ressentait, il éprouvait une sorte de volupté indéfinissable, une âcre jouissance à cet atroce contact. Et à mesure que le vampire buvait son sang, la douleur première qu'il avait éprouvée s'amoindrissait et passait à l'état de pure sensation, tandis que lui-même, de plus en plus engourdi, sentait l'alourdissement de sa tête tomber sur son cœur, et une faiblesse, extraordinaire en apparence, mais qui n'était que le corollaire inévitable de la perte de son sang, s'étendait à tous ses membres paralysés. Au bout de 20 minutes environ, le vampire s'arrêta. « Vous avez le sang rose et frais, baron » murmura-t-il. Le baron eût fait sans doute un soubresaut s'il n'eût été complètement paralysé. Cette voix, c'était celle qui l'avait déjà si fort ému et troublé, celle de la châtelaine morte avec qui il avait bu et dansé. Un frémissement imperceptible de tous ses membres indiqua seul au vampire ce que sa voix venait de lui faire ressentir. « Ah ! » murmura-t-il. « Vous me reconnaissez, baron ?» Le baron frémit de nouveau et fit un suprême et inutile effort pour parler et se débattre. « Je crois, poursuivit la morte, n'avoir plus besoin de vous expliquer par un mensonge comment, 10 années après ma mort, j'ai la chair aussi souple, le bras aussi arrondi et le cou si rose et si blanc. Vous le voyez, je suis vampire. Vous avez un sang admirable, baron. Je vous jure que je le ménagerai et le ferai durer longtemps. Je vous accorde un grand mois de vie. » Monsieur de Nossac ne pouvait ni bouger ni crier. Mais la souffrance morale qu'il éprouvait à ces paroles était telle qu'une sueur glacée découlait de sa chevelure le long de ses tempes. « Et maintenant, poursuivit le vampire, dormez et prenez du repos pour préparer les pertes que vous avez faites à mon profit. » Et ce disant, la châtelaine trépassée versa le contenu d'une petite fiole sur le cou du baron. La liqueur qui s'en échappa était tiède et gluante. Il sembla au baron qu'elle pénétrait tout entière dans ses veines appauvries par la blessure que le vampire lui avait faite avec ses dents et qu'elle y répandait une indéfinissable sensation de bien-être. Le vampire se leva alors et lui dit « Adieu, à demain !» Et il s'en alla du même pas, mesuré et lent, et ferma la porte sur lui. Presque aussitôt, les yeux du baron, ouverts tout le temps que le vampire était demeuré près de lui, se fermèrent sous le poids d'un sommeil invincible.
mais dégagé de cette ivresse lourde et pénible qui caractérisait le premier auquel il avait cédé après le départ de la jeune fille. Et il s'endormit paisiblement, cédant à un besoin de repos motivé par une faiblesse inaccoutumée. Le baron dormit plusieurs heures consécutives. Quand il s'éveilla, le soleil levant venait s'ébattre au milieu de la chambre qu'il occupait. Il se leva précipitamment, il courut à l'une des croisées, il l'ouvrit violemment et plongea sa tête avide et son œil ardent au dehors. Il avait devant lui, sous ses yeux, le plus charmant paysage qui fût sorti de la palette de l'Éternel. Sous les murs du château s'étendait une prairie, vaste d'une lieue, plantée d'arbres. Au milieu de cette prairie, un ruisseau. À son extrémité, la lisière d'une forêt de bouleaux et de pins, épaisse, touffue, mais agitant de la façon la plus naturelle ses panaches verts au souffle du vent matinal, et n'ayant dans son aspect rien d'effrayant et de satanique. Entre la prairie et la forêt, un petit village s'allongeait avec un cortège de jardins, de saules pleureurs et de haies d'aubépine. Aux alentours de ce village, une population de paysans, bergers ou laboureurs, s'occupaient des divers travaux des champs. Monsieur de Nossac demeura stupéfait devant ce calme et bucolique tableau. Ce roc à pic, aride, morne, surplombant un torrent déchaîné et furieux, ce torrent lui-même, tout avait disparu comme par enchantement. Le baron avait cru s'éveiller au milieu d'un site tourmenté, sauvage, non moins infernal que le château qu'il abritait et que les maîtres de ce château, et tout au contraire, il se trouvait au sein même d'un pastiche de Florian traduit au pinceau, avec des bergères enrubannées, des laboureurs chantant de gais refrains, des fermes lavées et peignées comme des cottages, et un castel qui, malgré son attitude imposante d'un style médiéval, avait en plein soleil cet air doux et pacifique d'un vieux châtelain revenu des croisades et devenu indulgent et facile pour ses serfs et ses vassaux, pour l'unique raison qu'il avait été lui-même esclave des morts quelques 10 années. C'était la première fois depuis longtemps que le baron se trouvait seul et l'esprit à peu près dispos. Il se mit donc à rêver et à réfléchir, essayant d'analyser, ou plutôt de s'expliquer, les sensations diverses et les étranges événements au milieu desquels il était ainsi plongé. Monsieur de Nossac appartenait à un siècle sceptique et philosophe entre tous les siècles. Il sortait à peine des orgies de la Régence, il était incrédule 2 jours auparavant, comme le plus entêté des matérialistes. Cependant, après ce qu'il avait vu et entendu, le scepticisme devenait impossible. Et il eut beau se répéter qu'il y avait une mystification au fond de tous ces mystères, il ne put se convaincre que le surnaturel n'eût pas joué le rôle principal dans ce qui s'était passé sous ses yeux la veille. Néanmoins, en déroulant un à un tous ses souvenirs, confus encore, il se souvint des paroles échappées à la jeune fille, qu'il avait trouvée si belle au milieu de ces squelettes affreux, de ces paroles qui devenaient presque une révélation. « Vous êtes le jouet d'une comédie terrible !» Mais ces faces décharnées où les vers se traînaient hideux et fétides, ce cadavre descendant de sa tombe, ce vampire le suçant. Monsieur de Nossac courut à une glace qu'il se rappelait d'avoir vue la veille sur la cheminée et regarda son cou. Son cou était tigré de quelques gouttes de sang et il avait sur le milieu une légère déchirure, une écorchure sans importance, dont il était assez difficile d'indiquer la source véritable. Il n'avait donc pas rêvé. « Décidément, pensa-t-il, il se passe autour de moi des choses tellement extraordinaires qu'il faut avoir fait de la chimie avec feu le régent, commander le régiment de royale cravate et passer 6 années de sa vie dans les ruelles de Versailles pour ne point devenir fou à lier. » Une autre pensée, pensée affreuse et désespérante, l'assaillit instantanément comme il prononçait le mot de fou. « Si je l'étais, » fit-il. Il retourna à la croisée, plongea de nouveau ses regards vers l'horizon, les promenades et lointains vaporeux et bleuâtres aux lignes plus rapprochées de la prairie et du village, se rendant compte lentement et avec une logique raisonnée de mathématicien des sensations actuelles qu'il éprouvait. Et, bien convaincu enfin qu'il avait la plénitude de ses facultés intellectuelles, il fut obligé de se dire « Je ne suis pas fou ». Il se reprit à rêver silencieusement encore pendant quelques minutes, puis il ajouta « C'est le cas ou jamais de dire « Le diable seul peut me tirer de pareil imbroglio. Si je savais le latin, je l'y perdrais jusqu'à la dernière syllabe. » Un petit éclat de rire, frais, mutin, coquet et mignard, un rire de jeune fille, moitié rouée, moitié naïve, se fit entendre sur la croisée et interrompit les réflexions laborieuses du baron. Il ramena son regard, qui errait à l'horizon, sur la lèvre de gazon qui servait de ceinture au château, et il reconnut, enlacés aux bras l'un de l'autre et se promenant dans la prairie, l'un des fils du veneur noir et la jeune fille qui lui avait servi de guide. Le veneur portait le même costume que la veille, la jeune fille pareillement. Seulement, le veneur était démasqué, et le baron crut, une fois de plus, qu'il rêvait les yeux ouverts, quand il se fut aperçu que le jeune homme était sans masque, et qu'au lieu de son visage de squelette décharné et rongé de vert, il avait une figure presque imberbe, rose, franche, ouverte, éclairée par deux grands yeux bleus, et rayonnant d'un bon et expansif sourire qui, certes, n'avait rien d'infernal. Quant à la jeune fille, elle était vêtue comme la veille, mais elle parut encore plus belle au baron. Monsieur de Nossac, qu'il n'avait aperçu ni l'un ni l'autre, se pencha le plus qu'il lui fut possible pour écouter et saisir quelques mots de leur conversation qui paraissait vive et joyeuse. Il ne parlait point cette langue bizarre des veneurs noirs, mais du bon allemand de Berlin, de Stuttgart ou d'Heidelberg, un allemand fort pur et fort correct. Le jeune veneur, qui devait être Bise d'hiver ou Brise de nuit, était maintenant appelé Willem par sa sœur, qu'à son tour il appelait Rochen. La stupéfaction du baron allait croissant, quand, pour la mettre à son comble, la porte s'ouvrit à deux battants et livra passage au veneur noir et à ses trois autres fils, démasqués tous quatre, l'œil grillant et le visage aussi frais et aussi humain que possible. Les faces de squelette avaient disparu. Chapitre 12. La stupéfaction du baron fut grande. Les veneurs avaient des visages parfaitement humains, et de plus, assez avenants. Le premier, celui qui était le père des autres, ou du moins qui passait pour tel, était un homme d'environ 58 ans, vert, ingambe, à en juger par les véritables tours de force et d'intrépidité juvénile qu'il avait accompli la veille. Les cheveux encore noirs, semés çà et là de quelques ténus filons argentés. La barbe complètement noire et bien fournie, l'œil brillant, la lèvre rouge et retroussée à l'autrichienne, le nez d'aigle et les dents aiguës et blanches. Le second, celui que la veille on avait appelé Vent du Nord, et qui, sous le masque, avait la barbe grise. Le second, disons-nous, avait 30 ans à peine, la moustache lustrée et d'un beau jet, et point de barbe. Où était donc la barbe grise? Le troisième, Vent du Midi, ressemblait fort à son frère, mais il était plus jeune de 2 ou 3 ans, et sa barbe était vierge et devenue blonde, de noire qu'elle était la veille. Le quatrième, enfin, Brise de Nuit, était le plus ravissant adolescent qui jamais ait usé les bancs des universités d'Oxford ou d'Heidelberg, de Bonn ou de Salamanque, avec ses chausses oranges à faveur ponceau ou grenat tendre. Yeux bleus, cheveux cendrés, moustache déliée, naissante, coquettement retroussée en croc, et se détachant à peine sur le blanc rosé de 2 joues satinées et féminines, bouche rêveuse, ayant à la fois le pli du rire et le pli des pleurs. Une bouche d'où la prière d'amour, la strophe mélancolique d'un page sous une persienne espagnole. Le langage imagé d'un amant poète et impitoyablement rebuté pouvait découler aussi bien qu'en jaillirait, à l'occasion, l'hymne étincelant et railleur de l'ivresse, la chanson cavalière et fringante de l'étudiant allemand qui s'en allait, alors, au cours de ses professeurs avec la rapière en verrouille. « Eh bien, mon cher baron, dit le père des veneurs, comment avez-vous dormi sous mon toit ?»«
À merveille, répondit le baron. Ma nuit a été aussi infernale qu'on put le désirer sous le toit d'un fils du diable. J'ai été sucé par un vampire. »
Le veneur noir poussa un éclat de rire. Un éclat de rire bien franc, bien rondement naïf, bonhomme à un degré suprême.
« Mon cher baron, dit-il, vous êtes l'homme le plus brave que j'ai rencontré, le gentilhomme le plus intrépide et le plus accompli qui soit au service du roi de France.
« Vous trouvez ? » demanda froidement Monsieur de Nossac.
« Et je crois inutile de vous soumettre à de nouvelles épreuves. Vous êtes au-dessus de toute terreur, mon cher baron. Avant de vous expliquer les événements qui se sont accomplis sous vos yeux, permettez-moi de vous assurer que ni moi ni mes fils n'avons rien de commun avec le diable. Je suis le comte de Holden-Grasbourg, et voici mes fils, Hermann, Conrad et Samuel. Willem est avec Rochen dans la prairie. Je vous les présenterai tout à l'heure. »
Et le comte de Holden-Grasbourg se pencha à la croisée et appela « Willem, Rochen !» Puis il se retourna vers le baron, son bon et franc sourire aux lèvres. Mais le baron, tout au contraire, était devenu pâle et acérait son regard comme une pointe d'acier. Le poing sur la hanche, la tête renversée en arrière avec une expression hautaine, il examinait froidement le comte de Holden-Grasbourg. « Messieurs, dit-il enfin, vous êtes gentilshommes, vous et vos fils, d'après ce que je vois. J'espère que vos fils et vous comprendrez tout ce qu'il y a de grave et de triste dans une mystification infligée à un gentilhomme. Je le suis. »
« Je vous comprends, monsieur, répondit le comte avec une froide dignité. « Ni moi ni mes fils ne vous feront défaut si vous vous croyez offensé. Maintenant, m'accorderez-vous 10 minutes ?»«
Pourquoi faire, monsieur ?»«
Pour justifier notre conduite étrange en apparence. »
« Oh, très étrange.
Et vous prouvez que ce que vous appelez une mystification est bien plutôt une nécessité.
Ah ah !
Veuillez m'écouter.
Je vous écoute.
Je ne suis pas le veneur noir, ce personnage à demi fantastique dont le nom est populaire en Bohême. Mais la tradition veut que je descende de lui en droite ligne.
J'approuve la généalogie, murmura le baron en ricanant.
Cette descendance n'est pas une recommandation dans le pays. Mes aïeux, tous pauvres, tous transis de froid qu'ils étaient dans leur castel lézardé et branlant au vent, mes aïeux jouissaient dans le pays d'une mauvaise réputation. Ils étaient honnêtes, mais on disait que les fils de Satan jouaient ce rôle de loyauté par hypocrisie. Ils étaient humains envers leurs serfs et leurs vassaux. La médisance allait jusqu'à prétendre que s'ils exemptaient les malheureux de la corvée et de la schlag, c'était par pure insouciance, se réservant de torturer leur âme en enfer pour se dédommager d'avoir épargné leur corps. Parmi les châtelains voisins, quelques-uns ajoutaient foi à notre fabuleuse origine et nous redoutaient. Les autres, plus hardis et moins crédules, profitaient sans scrupule aucun de cette sorte de proscription tacite, de ce muet ostracisme qui nous frappait et empiétait ça et là sur nos domaines, nous volant tantôt un coin de terre, tantôt une futaie, tantôt un taillis. Notre patrimoine allait se rétrécissant, et nous n'osions certes ni nous défendre ni nous plaindre, car juges et rois nous eussent condamnés avant de nous entendre. Cela dura plusieurs siècles. Mon père fut la dernière victime de ces rapines. Il mourut presque de faim, n'ayant que moi à son chevet d'agonie. J'étais un tout jeune homme, j'avais 15 ou 16 ans peut-être, et la vie se présentait à moi dure et presque inexorable. Je triomphai de la vie. Je pris au chevet de mon père mort une vieille épée qui datait des croisades, je saignis mes reins de la ceinture du voyageur et je partis. Je me dirigeai vers l'Orient, mendiant mon pain sur les routes, couchant au revers des fossés, mais ayant une fière mine sous mes haillons,
et un visage assez beau pour me faire remarquer des femmes qui, de leur croisée, me voyaient passer dans les villes. Je marchais bien longtemps ainsi. Je dormis bien des nuits en plein air. Je mangeais plus souvent encore le pain noir des bûcherons et des paysans. Enfin, j'arrivai en Bulgarie. Là, on adorait Mahomet, et on ne connaissait ni le veneur noir ni sa race. J'entrai au service d'un prince bulgare. Je devins officier dans ses armées, puis général, et je fus honoré de son amitié particulière. J'épousai une princesse bulgare, de laquelle j'eus 4 fils et 1 fille. Mais tout oriental que j'étais devenu, j'aimais ma chère Allemagne par-dessus tout, et ne pouvais me résoudre à l'oublier, ni même à renoncer à l'espoir d'y retourner vivre et mourir un jour. Aussi, quand mes 2 fils aînés eurent 15 ans, je les envoyai à l'université d'Heidelberg pour y étudier. Quand les 2 autres, qui étaient jumeaux, eurent atteint le même âge, ils allèrent rejoindre leur frère. J'étais devenu vieux. Le prince bulgare, qui m'avait comblé de biens et d'honneurs, était mort, laissant le trône à son fils, auquel rien ne m'attachait désormais. Et j'avais perdu ma femme peu avant. Alors je me souvins des vexations endurées par mon père et sa race, sous prétexte d'une légende nébuleuse. Je me rappelai l'acharnement de ses ennemis, sa mansuétude et celle de ses pères, et je songeais à le venger. J'avais 4 fils, forts et vaillants, d'immenses richesses, une nuée de serviteurs bulgares qui ignoraient la langue allemande et qui ne pouvaient nous trahir vis-à-vis des paysans de Bohême. Je voulus être réellement le fils du diable et ressusciter le veneur noir. Mes fils accoururent de l'université d'Heidelberg. J'arrivai moi-même ici du fond de la Bulgarie, une nuit, traînant à ma suite une armée d'esclaves et de domestiques. Mon château s'était écroulé tout à fait. Pas un mur n'en était intact. Les vallées voisines recelaient de profondes cavernes qui nous servirent d'abri durant le jour et nous cachèrent à tous les yeux. La nuit, nous travaillâmes à rebâtir mon château. Un bûcheron s'aperçut un matin qu'un mur écrasé s'était redressé depuis la veille et qu'une tour, rasée à demi, avait cru d'une coudée. Il s'enfuit effaré et prétendit que le diable s'était mis en tête de restaurer le castel de ses enfants. La nouvelle se répandit, les uns le crurent, d'autres haussèrent les épaules. Le lendemain, bon nombre de curieux arrivèrent avec le lever du soleil. Les 4 tours étaient retoiturées. La terreur gagna le pays. 2 jours après, un bûcheron me vit passer dans une clairière, vêtu comme le veneur noir, un masque sur le visage pour cacher ma face de squelette et tirant de ma trompe une étourdissante et sauvage fanfare. La terreur devint générale. J'organisai une grande chasse à cour, une chasse pareille à celle que vous avez vue hier et à laquelle vous avez assisté. Seulement, elle dura 8 jours. Pendant 8 journées et 8 nuits, mes piqueurs en veste rouge et mes veneurs en habit blanc parcoururent la torche à la main les forêts et les vallées, comme un ouragan de feu, arrachant aux échos environnants de lamentables et sinistres plaintes et excitant cette meute formidable que vous avez vue à l'œuvre. Mon château fut reconstruit tout entier en 1 mois. Mes voisins, qui depuis des siècles resserraient chaque jour mon domaine par des empiètements continuels, lâchèrent prise et reculèrent, épouvantés. Un paysan, qui, plus hardi, avait osé se placer sur mon passage, tomba raide mort en voyant soudain mon visage de squelette. Pour tous, pour la superstitieuse bohème tout entière, je devins le veneur noir. La nuit, on voyait mon château flamboyer sur son roc comme un phare gigantesque. Le jour, il était morne, silencieux, désert, menaçant et sombre aux rayons du soleil, comme ces fantômes qui, ayant trop dansé au sabbat, se sont trouvés le matin les jambes raidies et dans l'impossibilité de retourner au cimetière pour s'y coucher tout de leur long dans leur tombe. Ceci dure depuis 1 an. J'ai reconquis le vieux patrimoine de mes ancêtres, j'ai pris goût à la chasse, et maintenant je suis bien assuré qu'à 10 lieues à la ronde, on ne forcera jamais ni cerf ni daim. Le veneur noir, ou plutôt le comte de Holden-Grasbourg, s'arrêta et regarda le baron de Nossac. Le baron était toujours froid et hautain. Il avait conservé son regard irrité et son front chargé de nuages. « Cela est fort bien, dit-il, mais ne m'explique nullement cette mystification dont vous avez voulu me rendre victime. J'attends la lumière, monsieur le comte. » L'explication est simple, baron. J'ai des espions un peu partout et sur toutes les routes. J'ai su, avant qu'il fût exécuté, votre projet de délivrer le roi Stanislas. Je vous ai suivi pas à pas. Je vous ai vu mettre votre plan à exécution avec une audace inouïe, et j'ai voulu savoir par moi-même jusqu'à quel point vous étiez brave. Êtes-vous assez satisfait ? Demanda le baron avec un timbre d'ironie bien accentué. Au degré suprême, je me plais à vous proclamer le plus intrépide gentilhomme du monde. Vous êtes mille fois trop bon. Seulement, puisque vous êtes en veine d'explication, vous me ferez bien, je l'espère, l'honneur de me dire qu'est-ce que c'est que toute cette comédie du cercueil et cette trépassée qui danse et qui parle. L'un des veneurs, Hermann, partit d'un éclat de rire. C'est ma maîtresse, une bonne et charmante fille que j'ai ramenée d'Heidelberg et qui a bien voulu se charger de ce rôle. C'est étrange, murmura le baron. Je croyais reconnaître sa voix. Ah, par exemple. Sa voix ressemble à celle de ma femme défunte. Le hasard est bizarre, vous le savez. Soit, mais cette même femme, trépassée ou non, est venue ici cette nuit. Elle m'a étreint dans ses bras, elle m'a mordu au cou et sucé comme un vampire. Les quatre veneurs poussèrent un cri de stupéfaction qui, sincère ou simulé, impressionna vivement le baron. « C'est impossible !» s'écrièrent-ils. « Pourquoi impossible ?»« Parce qu'elle n'est point sortie de ma chambre, » dit Hermann, « et que ce matin, elle est partie à cheval pour une excursion dans les environs et ne reviendra que ce soir. » Le baron, à son tour, poussa un cri et courut à la glace qu'il avait déjà consultée. « Tenez !» dit-il en montrant la plaie qu'il avait au cou. « Voyez et touchez !» La surprise des veneurs augmenta, mais le comte de Oldengarsbourg l'examina attentivement et s'écria « Ce n'est pas une morsure, c'est une piqûre !» Puis, courant au lit, il y trouva la pointe de l'épée qui sortait à demi de l'oreiller sous lequel le baron l'avait placé lui-même, et il se prit à rire. « Baron, dit-il, vous étiez ivre hier soir, et vous avez eu le cauchemar toute la nuit. C'est votre épée qui est le vampire accusé par votre imagination. » « Ma foi, répondit Nossac, il se passe autour de moi tant de choses extraordinaires que je ne sais plus si je dors ou si je rêve. » « Vous ne rêvez plus, mais vous avez rêvé. » « Oh, cependant, il me semble la sentir encore là, près de moi, suçant mon sang, et me disant « Vous avez le sang rose et frais. » « Erreur et folie !» Mais, fit Nossac s'exaltant, me direz-vous aussi par quelle fantasmagorie étrange vous avez fait disparaître le roc désert que votre château domine, le torrent qui surplombe et la plaine sauvage qui l'environne, pour remplacer tout cela par ce site pastoral et mignard qui borne notre horizon ? » Les veneurs sourirent. « Venez, dit le comte. Vous aurez la clé de ce mystère par vos propres yeux. » Et il l'entraîna vers un appartement voisin, lui fit traverser plusieurs salles, d'où les décorations funèbres de la veille avaient disparu, pour faire place à des tentures étincelantes du coloris oriental, représentant les mystères du harem et les grandes chasses de l'Inde. Puis il ouvrit soudain une croisée. « Regardez, dit-il. » Le baron se pencha, et reconnut le paysage tourmenté de la veille. Il eut alors tout naturellement l'explication de ce mystère incompréhensible jusque-là. Le château avait deux façades et servait de limite à deux horizons bien distincts, l'un riant et calme, l'autre sinistre et abrupt. « Je suis un sot, dit-il. Puis regardant de nouveau le comte, « Monsieur, je trouve vos plaisanteries excessivement ingénieuses. Mais comme je ne crois point les avoir méritées, ni même provoquées, vous me permettrez de vous en demander compte. Un gentilhomme de ma trempe et de mon rang a peu de goût pour les mystifications de ce genre. » Les quatre veneurs se prirent à rire. Ce rire exaspéra le baron, qui recula d'un pas et mit l'épée à la main. Mais au même instant, la porte s'ouvrit. Rochaine, l'éblouissante et pure jeune fille, entra, s'appuyant au bras de Willem. L'épée échappa aux mains du baron, interdit et fasciné. Chapitre 13. Monsieur de Nossac sentit sa colère s'en aller et se fondre au doux regard de la jeune fille, ainsi qu'un ouragan s'apaise et éteint ses hurlements au premier baiser d'un rayon de soleil qui filtre, pâle et indécis, au travers des nuages. Il la regarda, muet, presque confus de l'acte d'emportement qu'il venait de commettre, puis il dévisagea Willem. Willem ressemblait à Samuel d'une façon si surprenante qu'il eût été impossible de les distinguer d'une manière nette et précise. Ils avaient tous deux même sourire grave et mélancolique percé d'une nuance d'ironie. Ils avaient l'un et l'autre les grands yeux bleus de Rochaine, et Rochaine leur ressemblait aussi d'une façon frappante. Seulement elle avait les traits plus fins encore, plus délicats, plus doux que ses frères. De Willem et Samuel, le regard du baron se reporta aux trois autres veneurs. Leur figure était franche, souriante, pleine de cette bonhomie courtoise qui paralyse l'irritation la plus grande. Monsieur de Nossac eut regret et honte de sa folle colère, et il fit un pas vers le comte de Holden-Grasbourg. « Mon cher hôte, lui dit-il cordialement, puisque vous êtes convaincu par vous-même de mon courage personnel, vous ne verrez, je l'espère, aucune couardise dans les excuses que je vous prie d'accepter pour ma sotte susceptibilité. Vos plaisanteries ont été dures, peut-être, mais j'en ai assez honorablement triomphé pour n'exiger aucune réparation. » « À la bonne heure !» s'écria le comte gaiement. « Vous êtes le type accompli du gentilhomme français, brave et spirituel. Et si je regrette une chose dans votre métamorphose, c'est que le but dans lequel le veneur noir m'avait amené chez lui soit complètement changé. » La voix du baron s'altéra légèrement. « Que voulez-vous dire ? » demanda le comte. « Que le fils du diable m'avait mis au défi en me proposant d'épouser sa fille. Mais que le comte de Holden-Grasbourg n'a plus aucun motif, sans doute, le terrible et l'effrayant d'une alliance avec le diable étant écarté, pour me faire la même proposition. » Et monsieur de Nossac jeta un regard triste à Rochaine. Mais le comte tendit expansivement la main au baron et s'écria « Vous êtes plus que brave et spirituel. Vous êtes encore doué d'une exquise délicatesse, monsieur le baron de Nossac. Nous sommes d'assez vieille noblesse, riches et loyaux. Nous recherchons l'honneur de votre alliance. Nous refuserez-vous ?» Monsieur de Nossac ne répondit pas et regarda Rochaine d'un air suppliant. « Acceptez !» sembla-t-elle lui dire d'un signe imperceptible, tandis que l'incarnat de la pudeur montait à son front. « Monsieur le comte, dit alors solennellement monsieur de Nossac, je vous supplie de m'accorder la main de mademoiselle Rochaine, votre fille. « Je vous l'accorde, baron, et tout l'honneur de cette alliance est pour ma maison. » Ces paroles prononcées, le comte prit la main de Rochaine, la plaça dans celle de Nossac et ajouta « Ne changeons rien à ce qui était convenu avec le fils de Satan. Vous êtes fiancés. Nous célébrerons le mariage dans 8 jours. » La satisfaction de monsieur de Nossac, le tressaillement de bonheur qui montait de son cœur à sa tête, était tel en ce moment que la fantasmagorie de la veille et les bizarres événements dont il n'avait encore qu'imparfaitement le secret s'effacèrent de son esprit. Il se crut bien réellement chez un bon gentilhomme de Bohême, ouvert et brave homme, qui ne demandait pas mieux que de se débarrasser de sa fille et de ses millions en faveur de quelqu'un de présentable. « Maintenant, fit le comte en riant, si vous le jugez bon, nous descendrons dans le parc où le déjeuner est servi sous une tonnelle de chèvrefeuille et de lilas. Donnez la main à votre fiancée, baron. » Samuel et William ouvrirent la marche, appuyés l'un sur l'autre avec une affectueuse nonchalance toute féminine qui trahissait chez eux cette tendresse mystérieuse qu'ont entre eux les jumeaux. Le comte prit le bras de son fils Hermann et Conrad ferma la marche. Le baron tombait de surprise en ébahissement à chaque pas. Le château, si morne, si lugubre la veille, avait un air riant et guilleré, comme ces vieillards rajeunis par un nouveau mariage qui s'épanouissent et font la roue au bras de leur jeune femme. La verte prairie qui le saignait à demi et l'effleurait d'un baiser de verdure semblait lui avoir envoyé la moitié de ses parfums et de sa vive lumière. Le comte conduisit son hôte dans le parc où, comme il l'avait dit, la table était dressée sous une tonnelle. C'était un déjeuner oriental, dans toute sa luxueuse simplicité. Les corbeilles de fruits, les vases de fleurs, les confitures du harem, les vins d'Albanie, que les mahométans ne boivent qu'en cachette, tout cela miroitait, étincelait, faisant un double appel aux nobles instincts du peintre par la richesse et le velouté des couleurs, et aux exquises appétences du gourmet par les parfums pénétrants qui s'en dégageaient. En ce moment, le pas d'un cheval retentit derrière le berceau. « Tiens, » dit Hermann, « voici Gretchen de retour. Elle ne devait revenir que ce soir. »
« Qu'est-ce que Gretchen ?»«
Votre trépassé d'hier, baron. » Le cheval s'arrêta devant le berceau même, et une femme aux cheveux noirs, au front blanc et pur comme l'ivoire, sauta lestement à terre. C'était une ravissante fille de 25 à 26 ans, à la lèvre rouge, à l'œil profond et noir, à la démarche nonchalante et souple comme une allure de tigresse. Elle entra, le sourire aux lèvres, dans le berceau de verdure, et salua le baron avec une respectueuse familiarité. À sa vue, le baron poussa un cri terrible, un cri d'effroi, que n'avaient pu lui arracher ni les prodiges du veneur noir, ni cette morte sortant du cercueil, ni toutes ces vertigineuses terreurs auxquelles il avait été en proie durant 48 heures. Un cri de douleur et d'angoisse qui le fit pirouetter sur son siège, tomber à la renverse et murmurer d'une voix éteinte et étranglée « Ma femme ! C'est ma femme !» Chapitre 14. Les veneurs se regardèrent avec un étonnement qui, vrai ou joué, était tel qu'il produisit sur le baron un contre-coup de surprise non moins violent. Au milieu de son effroi, tout paralysé, tout terrassé qu'il pût être par cette apparition, il n'en eut pas moins le temps de s'apercevoir que ses hôtes étaient frappés de stupeur et ne comprenaient absolument rien aux paroles qui venaient de lui échapper. Quant à sa femme, ou plutôt à celle qu'il prenait pour sa femme, elle était tout aussi surprise, tout aussi naïvement étonnée, et elle regardait le baron d'un œil qui semblait lui dire « Où diable ai-je jamais pu vous épouser ?» Monsieur de Nossac sentit ses cheveux se hérisser. Ou ce n'était point sa femme, et alors la ressemblance était si parfaite que c'en était à devenir fou sur l'heure, ou c'était elle, et alors, comme il l'avait vue morte et bien morte, comme il avait vu clouer sa bière et maçonner son caveau funéraire, il fallait renverser d'un souffle toutes les théories admises à l'endroit des morts, et croire que madame la baronne Hélène de Nossac était sortie de sa tombe, aussi belle, aussi jeune qu'elle y était descendue, pour venir tourmenter son infidèle époux et lui demander raison de ses outrages. Et c'était bien elle, cependant, si l'on en croyait la ressemblance. Même taille, même port, même sourire hautain et calme, même regard assuré et profond, même fossette légère au menton, même voix, même geste. Gretchen avait peut-être, de plus que la baronne, quelques lignes imperceptibles qui sillonnaient son front, attestant de précoces soucis. Mais le cercueil n'avait-il pas pu les creuser? Les 8 personnes qui se trouvaient ainsi en présence demeurèrent longtemps silencieuses, mornes, pétrifiées. Et encadrées qu'elles étaient par les touffes de lilas et de chèvrefeuilles qui grimpaient sur un invisible châssis et ornaient un berceau de verdure, on les eût aisément prises pour des statues de jardin. Enfin, le comte de Holden-Grasbourg rompit le premier le silence de stupeur qui régnait sous le berceau et dit au baron « Il est impossible, monsieur, que vous ne soyez point abusé par une ressemblance plus que bizarre. « Vous croyez ?» balbutia Nosac, pâle et haletant. « Je le crois aussi, » dit Gretchen. « J'ai vu monsieur hier pour la première fois. » Au lieu de rassurer le baron, ses simples paroles redoublèrent son effroi. « Oh » fit-il, « vous avez sa voix, c'est vous !»«
Vous êtes fou !» dit-elle avec émotion. « Je suis une pauvre fille d'Heidelberg qui n'a jamais vu la France, qui ne sait pas le français. Comment voulez-vous que je sois votre femme ?»«
Vous avez sa voix, vous avez son geste, son regard, ses moindres signes !» murmurait toujours le baron.
« Folie !» dit Hermann. « J'ai connu Gretchen alors qu'elle avait 15 ans à peine. Elle ne m'a jamais quitté. »
Monsieur de Nosac regarda Hermann. Hermann avait un visage ouvert et calme. Hermann n'avait nullement l'air de mentir. Puis il regarda tour à tour le comte et ses 3 autres fils, et il lut sur leur physionomie la même assertion. Puis son œil chercha l'œil de Rochen. Mais Rochen, la rougeur au front, avait les yeux baissés et paraissait souffrir. Le baron tressaillit. Mais il finit par se dire qu'il était le jouet d'une étrangeté du hasard, d'une ressemblance inouïe, et il essaya de sourire. « Pardonnez, madame, mon sot est froid, mais j'ai l'esprit frappé depuis hier, et votre ressemblance merveilleuse avec la femme que j'ai perdue, jointe à un rêve que j'ai fait la nuit dernière et qui avait si bien l'apparence de la réalité qu'il m'a fallu l'assertion de ces messieurs pour n'y point croire, « votre ressemblance, dis-je, jointe au rêve que j'ai fait, peut seule m'excuser. »«
Un rêve ?»
fit Gretchen étonnée.
« Oui, » répondit Nosac. « J'ai rêvé, j'ai cru voir, la nuit dernière, la porte de ma chambre s'ouvrir. Vous êtes entrée, votre masque sur le visage. Vous vous êtes couché près de moi et m'avez, comme un vampire, mordu à la gorge. »
Gretchen poussa un cri d'horreur d'abord, et puis un éclat de rire.
« Regardez-moi bien, monsieur le baron, » dit-elle, « et voyez si j'ai l'air d'un vampire le moins du monde. »
Le baron leva de nouveau les yeux sur elle. Elle le regardait, avec cette mélancolie suave et lascive qu'il se souvenait avoir vue dans les yeux de mademoiselle Borelli. Et tressaillant de nouveau, il se prit à songer à sa femme, morte de désespoir et de jalousie, et à son indigne conduite envers elle. Et il oublia Rochen une minute. Une minute. Il se souvint des larmes qu'il avait versées sur le corps inanimé d'Hélène.
« Baron !» dit le comte de Holden-Greisbourg, interrompant brusquement les réflexions pénibles de monsieur de Nosac.
« Assurez-vous bien et définitivement que notre pauvre Gretchen n'a rien de commun avec feu madame la baronne de Nosac. Chassez ensuite les souvenirs lugubres qui ont pu vous venir en mémoire. Et allons, si vous le voulez bien, visiter mes domaines, ainsi qu'il était convenu avant déjeuner. »
Monsieur de Nosac leva les yeux sur Gretchen. Gretchen était insouciante et calme. « Madame, » dit-il sans pouvoir vaincre entièrement l'émotion qui le dominait. « Veuillez me permettre une question. »«
Parlez, monsieur, »
dit Gretchen avec sa voix douce et mélancolique.
« Comment avez-vous pu me parler en termes aussi précis de ma femme hier soir ?»
Gretchen sourit. « Demandez à Hermann, » fit-elle.
« Monsieur le baron, » dit Hermann, « n'avez-vous point un ami qu'on nomme le marquis de Simiane ?»«
Oui, bien, » dit Nosac.
« Colonel des dragons ?»«
Sans doute. »«
Et qui a fait la dernière campagne d'Allemagne ?»«
Certainement. »«
Eh bien, comme nous vous l'avons déjà dit, mes frères et moi sommes des « students » de l'université d'Heidelberg. L'année dernière, monsieur de Simiane, blessé d'un coup de feu à l'épaule, vint se faire soigner à Heidelberg. J'étais un des aides-chirurgiens qui le pensait. Il me prit en amitié et m'engagea à continuer mes visites, même après sa convalescence. Je lui envoyais Gretchen tous les soirs. et chaque fois qu'il la voyait, il lui échappait de dire « Vous avez une vague ressemblance avec feu la baronne de Nosac. »
Vague ? Il ne trouvait la ressemblance que vague ?
Oui, certes.
« Il faut que j'aie l'esprit frappé, » pensa le baron.
Or, continua Hermann, un soir qu'il nous répétait cette phrase, nous lui demandâmes ce qu'était Madame de Nosac. « Une femme morte vierge, » nous répondit-il. Et il nous conta l'histoire de votre mariage. Vous sentez que nous en avons profité hier soir, et que Gretchen, qui toute bonne fille qu'elle est, a le caractère taquin et l'esprit railleur, n'a pas manqué de vous la répéter aussi complètement qu'elle pouvait la savoir. » Et Hermann prit dans ses mains d'Hercule la taille souple de Gretchen, l'attira à lui et mit un baiser sur son front. Monsieur de Nosac tressaillit soudain et éprouva une vague douleur au cœur et à la tête. Ce baiser lui avait fait mal. Il en était jaloux.
Pourquoi ?
Il s'adressa sans doute et instantanément cette question, et la taxa, sans doute aussi, de folie, car il porta vivement les yeux vers Rochaine, comme s'il eût cherché une égide protectrice dans son regard et dans son amour, contre de poignants souvenirs et l'image nouvelle qui les rappelait. Rochaine était oppressée et souffrante. Rochaine, les yeux baissés, écoutait haletante cette étrange explication qui avait lieu entre Hermann, Gretchen et le baron, et elle en paraissait plus affligée qu'étonnée.
« Allons, baron, » dit le comte de Holden-Greisbourg, « offrez la main à votre fiancée. »
Il appuya sur ce mot, et un éclair qui échappa au baron jaillit des yeux de Gretchen. « Offrez la main à votre fiancée, » reprit-il, « et allons par la prairie, jusqu'au petit village que vous voyez là-bas, et qui est habité par une colonie bulgare. » Le baron s'approcha de Rochaine et prit sa main. La main de Rochaine tremblait bien fort, et son cœur battait à rompre. Le baron remarqua cette émotion, mais il l'attribua à la scène qui venait d'avoir lieu et à l'effroi qui avait dû nécessairement en résulter pour la jeune fille. Hermann et Gretchen sortirent les premiers du berceau et s'en allèrent à travers la prairie, à 20 ou 30 pas en avant du baron et de Rochaine, qui marchaient oppressés et silencieux. Gretchen s'appuyait sur l'épaule de son amant avec une molle langueur. Tantôt elle lui parlait distinctement, lentement, de choses à peu près indifférentes. Tantôt elle se penchait à son oreille et murmurait alors tout bas de suaves paroles d'amour, que le baron, vu la distance, n'entendait pas, mais devinait. Car au lieu de songer à Rochaine dont le bras frémissait sur son bras, dont il put entendre les pulsations du cœur tant elles étaient bruyantes, le baron suivait d'un œil avide les moindres mouvements de Gretchen et d'Hermann. Il prêtait une oreille avide aux mots les plus insignifiants qu'une bouffée de vent lui apportait. Il tressaillait de colère aux petits éclats de rire frais, mutins, railleurs, que Gretchen éparpillait dans son coquet et gentil babil. Et il souffrait, sans le savoir, le pauvre gentilhomme, et il se demandait sérieusement pourquoi il s'occupait ainsi de cette grisette d'Heidelberg riant au bras d'un étudiant. Et pendant ce temps, Rochaine faisait des efforts inouïs pour vaincre, elle aussi, sa souffrance, ou au moins la dominer. Et elle y parvint, et finit par ouvrir la bouche et parler à son cavalier. Au son de cette voix, le baron parut se réveiller d'un sommeil pénible, et il oublia à son tour Gretchen une seconde pour revenir à Rochaine. Il la regarda. Elle était plus belle encore, avec ce vermillon passager qui colorait ses joues et son front. Alors il pressa doucement sa main et lui dit « Je dois vous paraître bien ridicule, mademoiselle. »«
Vous ? » fit-elle avec émotion.
« Pourquoi ? » ?»«
Parce que je dément vos paroles d'hier. Vous êtes brave comme un lion, par mes folles appréhensions de tous les instants. »«
Ce n'est point de la terreur, » fit-elle doucement. « C'est une simple émotion. »
Un éclat de rire moqueur de Gretchen arriva au baron, comme il allait répondre à sa fiancée,
et il se tut brusquement. Rochaine s'aperçut de cette interruption soudaine. Elle vit le nuage qui passait sur le front du baron, et tressaillant vivement, « Monsieur, dit-elle, je voudrais bien vous parler seul à seul. »« Parlez, mademoiselle, répondit Nossac, rappelé malgré lui par ce timbre harmonieux qui distinguait la voix de Rochaine.
« Oh, pas maintenant, fit-elle, pas maintenant. »«
Pourquoi ? » ?»«
On nous observe. » »«
Eh bien ? » ?»«
Eh bien, si l'on savait ce que j'ai l'intention de vous dire... »
Rochaine s'arrêta frémissante.
« Si l'on savait, fit le baron anxieux.
« Je serais perdue, fit-elle avec terreur.
« Perdue ? » ?»«
Willem me tuerait. »
Nossac regarda Rochaine. Rochaine tremblait, mais elle le contemplait avec amour et semblait lui dire
« Oh, je braverai la mort pour vous, car je vous aime !»«
Eh bien, murmura-t-il tout bas, bien que je ne puisse ni deviner ni comprendre ce que vous voulez me dire, j'attendrai patiemment l'heure et le lieu où vous pourrez.
« Ce soir, »
dit-elle tout bas,
« chez vous. »«
Bien, » fit Nossac intrigué. En ce moment, ils arrivaient à la lisière de la forêt qui bornait la prairie, et le baron vit Gretchen et Hermann disparaître derrière un bosquet de sapins. Il se troubla et pâlit, un frémissement convulsif agita sa main qui pressait la main de Rochaine, et Rochaine devina quelle émotion jalouse venait de l'agiter.
« Mon Dieu » murmura-t-elle tout bas, si bas que Nossac lui-même ne l'entendit pas. « L'aimerait-il encore ?»
Elle s'arrêta frissonnante et la sueur au front.
« Et » reprit-elle, glacée, « serais-je jalouse ?»